Héroïka de Pierre Ducrozet, lu par l'auteur. Jay marche. À l'angle de la 37e, à deux pas de Penn Station, il passe devant un cinéma permanent. Il voudrait rentrer, mais il a tout son barda sous le bras, son âge, sa couleur. Laisse tomber. Il avance. La ville pétarade comme tous les jours. Il ouvre la bouche et avale pute, dealer, mac, odeur de poubelle, quincaillerie, hot dog, cris, poussière des ravalements de façade et peau d'échappement. Les enseignes palpitent devant lui. New York, 78. La ville est au bord de la faillite. Il pleut sur les terrains vagues. C'est ruine sur ruine dans les fumées sales. D'Alphabet City, au sud-est de Manhattan, en bordure du Lower East Side, jusqu'à Greenwich Village, les immeubles tombent à terre. La dernière goutte perle encore sur la seringue abandonnée. Les billets se froissent et se glissent dans la poche, promoteurs mafieux et dealers d'héroïne, corrompus de toute voilure qui s'agitent dans les odeurs de caoutchouc brûlé. New York, 78, on ne s'arrête pas au carrefour. 3 ans plus tôt, le président Gerald Ford a sauvé la ville de la banqueroute en lui injectant plus de 2 milliards de dollars du trésor américain. Ed Koch, qui vient d'être élu maire, poursuit l'effort. Il veut refaire de New York la capitale du monde. C'est un homme sec, élégant, qui a déjà conquis tous les New-Yorkais par son refus du protocole et son énergie politique. On le voit danser dans les clubs, on l'aperçoit au bras d'acteurs, il est aussi cool que sa ville l'était. Il voudrait qu'elle le redevienne, mais ça ne suffit pas. Les New-Yorkais fuient, les industries aussi, les émeutes se succèdent, Harlem et South Bronx sont des terrains de guerre. Dans ce chaos brûlant, Jay aime se glisser. Tous les jours, il se lève et se jette entre les néons furieux des avenues qui annoncent Femme en string et Big Show. Il tourne autour des diners sordides et des petites frappes en cuir. Il remonte jusqu'à la 42e et détaille les putes dans leur vison. Des clopes roulent sur le rose déchu de leur lippe. Jay redescend la 7e avenue et prend la 14e rue jusqu'à Union Square. Ici commence son royaume, l'East Village. Il est chez lui, là où ça tombe. Il sait où pousse le lichen. Il avance. Jay sait marcher au hasard dans sa veste traîne à terre. Il détaille les poutres vermoulues, les escaliers en fer usé, les visages qui s'allongent, les pas saccadés des défoncés aux amphétamines, plus lents si c'est à l'héroïne dont le gramme se vend à 10 sacs. Il ne l'a connue que comme ça, sa ville. Il l'aime sale et impure, fenêtres fêlées, les égouts qui y refluent et les rats dedans. Jay avance sur cette plaie ouverte. Il porte une veste en cuir, trouvée dans Tompkins Square. Il tient un sac avec quelques fringues, une lampe, 2 magazines. Il a 17 ans. Il entend la rumeur. Il monte parfois vers l'origine du bruit, là, à Harlem, dans le Bronx. Il écoute. Une ville en ruine sécrète rois et démons. Comme à chaque fois qu'un monde s'écroule et qu'un autre est sur le point de sortir du néant, un rythme latent l'annonce. Les prophètes et les fous l'entendent. Il est là, il bat, lourd, il monte en volute dans l'air moite. Il monte des sirènes d'incendie, des impasses, des terrains vagues, des hautes tours de Harlem, blocs de béton armés devant lesquels se retrouvent les gosses aux poings serrés qui tournent autour de la vasque dans leur vélo et ne savent où taper et se frappent et gueulent. Ça monte des squares de South Bronx. Ça stagne sous les hauts piliers du métro aérien, sourde pulsation qui gagne la ville entière, les épiceries braquées par des calibres 22. Sur les trottoirs des bandes, on entend leurs pas lourds, ghetto blaster sur l'épaule, casquette débardeur bandana sur leur crâne noir. On les connaît. Ce sont les gosses du quartier, on les a vus grandir, et avec eux, l'humiliation. Ils ont décidé de ne pas se rendre, comme le firent leurs parents. La police peut sortir les armes. Ils ont les mains ouvertes. Ils sont morts déjà, tirés. Pas besoin de flingues, les bombes, c'est eux. Le vendeur de tabac voit passer les baskets et les yeux rouges. On entend des platines qui crachent dans les coins. Des gars font crisser des 33 tours pour voir. À côté, des énormes blacks en survette lancent des pas de danse sur le bitume mouillé. La rage contenue se diffuse entre les tours comme une rumeur. Jay rencontre Fab Five Freddy, graffeur et DJ, un soir au Mud Club. Il porte des lunettes noires, la moustache noire. Il parle vite de cet accent saccadé. Jay le retrouve une semaine plus tard sur la Randall Avenue du Bronx où Fab Five Freddy lui présente ses potes d'entre les tours, les pionniers du hip-hop. Lee Quinones, A1, DJ Ramelzy, Toxic. Jay sent quelque chose dans leurs mains lorsqu'il les serre. Il dort ce soir-là chez une fille rencontrée au Mud. Il dort dans des salles de cinéma, sur le porche d'un immeuble, dans un recoin des sous-bois de Central Park, d'où le chasse un gardien. Il se pose quelque part et il dort. Mais vite, il trouve une bande. Ils doivent être 500. New York, c'est eux maintenant. Ils dansent dans les mêmes clubs, le Mud surtout, où se retrouvent tous ceux qui portent plumes, crêtes, blousons. Ils traînent dans les mêmes parcs. Tous veulent être artistes, chanteurs, DJ. On ne travaille pas. On polie sa technique dans le salon d'un pote parti en voyage. Et le soir, on va lacérer des guitares au CBGB sur Bowery. On va danser jusqu'au matin au loft. On court au studio 54 qui vient d'ouvrir et réunit pour la première fois blanc et noir le maire Ed Koch et Grace Jones, les punks de St. Mark Place et les garçons chics de l'Upper West Side, Michael Jackson, Truman Capote, Patti Smith et Gloria Gaynor. Le punk rock vient de naître. Le hip-hop grandit, le disco aussi. On va faire un film de tout ça, dit Edo Bertoglio, qui a choisi, lui, le cinéma. Il faut le faire sur le vif. Toute cette musique-là, démente et le reste. Et toi, Jay, tu joueras ton propre rôle. Lequel ? Apprenti artiste et grand fêtard de l'East Village. Tu seras le personnage principal. Ok. Jay n'est encore personne, mais il est déjà connu de tous. On voit sa veste venir de loin. Il dort maintenant, c'est pratique, dans le studio de l'équipe du film. Ils savent où le trouver au matin. Et il peut peindre, dans le hangar. Le jour, il tourne dans les rues, et le soir, dans les clubs. C'est l'histoire d'un type qui se réveille à l'hôpital et retrouve son New York en proie à la même fièvre que lui. Quand il repose la caméra, Jay reprend ses marqueurs. Jay danse sur la piste du Club 57 dans son t-shirt troué. À côté de lui, un homme trapu au front peint. Klaus Nomi, né à Berlin-Ouest, est arrivé à New York en 1972. Après des années de galère, il lance sa voix et n'en revient pas. Il découvre Bowie et c'est fini. Il se peinturlure de blanc et de noir, dresse ses cheveux sur sa tête et invente un nouveau genre musical, l'opéra pop. Depuis, c'est un galactique éberlué qui fait gicler sa voix de stentor sur des scènes obscures et sidère les gens assis devant lui. Il fait partie de cette petite bande. C'est un parfait oiseau de nuit au bec noir. Jay et Klaus dansent ensemble, comme toutes les semaines. Le sol est jonché de mégots. « Allez, vas-y, redis-le. Vas-y, redis-le, s'il te plaît. »« Ich hab's oft gemacht. » Et Jay se plie. La langue allemande lui fait ça. Klaus embrasse soudain Jay qui trouve ça plutôt bien. Il aime la force qui émane de son corps frêle. Ils rentrent ensemble. Klaus n'est pas beau. Il a ce torse rabougri avec une tête ovale par-dessus. Mais quelque chose vibre en lui, que Jay a senti. Le garçon possède ce corps radar qui s'électrise au moindre contact. La délicatesse, autant que la puissance, la douleur ou l'extravagance, le brusque. Jay dort là, à présent, dans son lit, sur l'avenue A, dans Alphabet City. Klaus ne porte plus qu'une combinaison spatiale. Il est accompagné de deux danseurs et choristes. Les salles se remplissent. Mais Jay attrape déjà son sac et repart. Toute chose le lasse vite. Bientôt, on ne distingue plus Jay des rues de sa ville. Teinte grise, manière cool et saccadée, magma intérieur et vitesse d'exécution, ce qui est à l'un est à l'autre. On quitte souvent ce qui a formé le ciel de notre enfance, car il nous faut de l'air et des horizons plus vastes que ceux que notre univers mental a ici créés. On peut aussi avoir toujours habité l'infini et ne pas vouloir le quitter. C'est son cas. Jay ne connaît que ce ciel et ses trottoirs qui se reproduisent devant lui. Il n'a pas besoin d'alimenter son puits d'eau nouvelle. Elles lui sont servies quotidiennement par le flux et le reflux des choses qu'ici on appelle New York.